Voilà, frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être présent au milieu de vous ce matin. Et j'avais à cœur de partager avec vous quelques éléments de ce que j'ai pu, au fil de lecture, découvrir sur un livre que l'on ne lit pas beaucoup dans nos églises. Et j'étais sensible tout à l'heure à la prière pour que la Bible nous habite, que sa parole, la parole du Seigneur vienne en profondeur nous faire du bien, nous ressaisir, nous montrer un chemin. Et ce livre, c'est le Cantique des Cantiques. Alors j'ai commencé par un petit sondage, mais n'y voyez pas du mal, je ne vais pas vous donner de mauvaises ou de bonnes notes. Ce n'est pas du tout mon objectif, mais ça va m'enseigner moi. Qui parmi vous a lu le Cantique des Cantiques en entier au moins une fois? Oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est vraiment très bien. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà entendu des messages sur le Cantique des Cantiques? Il y en a déjà un peu moins. Et je dois bien avouer que moi, en tant que pasteur, je n'ai pratiquement jamais, mais je peux dire presque jamais, prêché sur le Cantique des Cantiques. Et ça m'a moi-même interrogé. Et j'ai été un peu mis au défi de, peut-être par le Seigneur, en tout cas par ma curiosité, et puis par le constat qu'effectivement, c'est un livre que je ne connaissais pas beaucoup, puis qui ne me parlait pas beaucoup, que je trouvais difficile d'accès. Et je me suis dit, peut-être que le Seigneur a quelque chose à me dire à travers ça. Donc, la majorité d'entre vous a lu le livre. Moins l'on a pu écouter un message ou un enseignement là-dessus. Ne croyez pas que c'est parce que la Saint-Valentin est, je crois, dans la semaine, là, que j'ai choisi ce livre. Ce n'est pas du tout la raison. Mais je pense que, justement, il est trop cantonné, en tout cas dans mon église, il est très cantonné au mariage. Quand on demande à un jeune couple de choisir des textes de la Bible, alors il y a parmi les textes que l'on peut leur proposer, s'ils ne sont pas très familiers avec la Bible, on leur propose le Cantique des Cantiques. Et en tant que pasteur, je me disais, ah, enfin, un livre un peu sympa, qui parle de l'amour humain de manière joyeuse, positive, gracieuse. Et puis, je me dis qu'à la longue, c'est peut-être quand même faire fausse route. Parce que je ne crois pas que ce livre ne soit qu'une question où le couple soit au centre. Et en réalité, plus je le lis, plus je m'aperçois que je crois qu'on fait fausse route. Si c'était que l'histoire d'un berger qui soupire après l'amour d'une bergère et inversement, ce serait sympa, c'est vrai que c'est agréable. Si on y ajoute un petit piment, parce que certains commentateurs y ajoutent un petit piment, le roi Salomon est en embuscade, prêt à ravir la jolie bergère et la pousser dans son harem. Ouais, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça m'enseigne ? Rien, ou pas grand-chose. Et alors, je me suis dit, ben ouais, mais finalement, le peuple d'Israël a quelque chose à nous apprendre. Le Cantique des Cantiques est lu dans le judaïsme chaque année à la fête de la Pâque, qui célèbre la sortie d'Égypte, la libération. Et puis, chaque entrée du Shabbat, donc chaque vendredi soir au coucher du soleil, les communautés juives récitent une partie du Cantique des Cantiques avec cette parole « Viens, mon bien-aimé, viens ». Ok, le judaïsme, lui, a gardé quelque chose quand même de plus profond dans le sens du Cantique des Cantiques. Nous, chrétiens, nous avons du mal. Soit ce livre nous parle de la vie de couple, avec des images suggestives, certains commentateurs y ont vu même des passages à connotation érotique, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est à peu près tout. Ou bien on est un peu mal à l'aise devant ce texte, et on l'ignore, et on, Et on se dit, oh ben oui, mais finalement, le nom de Dieu n'y est même pas mentionné. Et puis, il ne parle même pas de la Bible, enfin, même pas de la loi, enfin, rien de tout ça, ni de l'Alliance. Ni... Donc, quel intérêt de lire ce livre? Je crois que c'est une lecture très, très rapide et très superficielle qui nous amène à ces conclusions. Car en réalité, le cantique est beaucoup plus profond, mais beaucoup plus profond que ce que l'on peut penser. Peut-être que ma petite contribution aujourd'hui, c'est de vous donner quelques petites pistes et puis vous montrer combien toute l'écriture peut nous apprendre quelque chose, y compris ce passage-là. Alors, je vais lire déjà les 4 premiers versets du premier chapitre. Chant des chants. Alors, c'est une traduction qui m'est personnelle, hein, mais vous ne la trouverez pas exactement mot à mot comme ça dans nos différentes traductions. Chant des chants qui est à Salomon. Il me baise des baisers de sa bouche. Car tes amours sont bonnes plus que le vin. Pour l'odeur, tes huiles sont bonnes. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Attire-moi vers toi, nous courons. Le roi m'a fait venir en son lieu retiré. Nous nous réjouissons et nous exultons en toi. Nous nous rappelons tes amours par le vin. Dans une conduite droite, il t'aime. Alors ça commence fort. Il me baise des baisers de sa bouche. On a l'impression qu'il n'y a pas de commencement. On rentre de plein pied dans une sorte de fête, de farandole, de danse, enfin on ne sait pas très bien, mais on entre de plein pied. En fait, ce livre n'a ni début, ni fin, et peut-être que c'est déjà un indice. C'est déjà un indice que notre vie de chrétienne et de chrétien repose sur toute une histoire. L'Église n'est pas née d'aujourd'hui et je suis invité à entrer dans un mouvement qui est le mouvement que l'Esprit-Saint crée au milieu de l'humanité et qui s'appelle son peuple. Et que ce peuple m'a précédé quelque part et me suivra après ma mort. Le corps de Christ, c'est une réalité qui n'est pas liée seulement au temps, mais c'est quelque chose qui me déborde, qui déborde ma vie. Et je suis donc au bénéfice de tous ces frères et sœurs qui, au long des âges, ont pu vivre et persévérer dans la vie chrétienne malgré les persécutions. Et puis, cette vie du peuple de Dieu continue après moi-même. Et c'est déjà quelque chose. Et il y a un entre-deux, et je suis appelé à entrer là-dedans comme invité et comme participant pleinement à la vie de ce peuple. Ça commence fort. Et on entre dans un dialogue. Et ça, c'est aussi un élément important du cantique. C'est un livre de dialogue. Un homme et une femme, le bien-aimé et la fiancée. Dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui fait dialogue? Sinon, la prière. Le livre du Cantique des Cantiques, aussi étonnamment que l'on puisse penser, c'est un livre de prière. C'est une manière de se positionner, moi, devant un « tu » qui m'est extérieur et que j'apprends peu à peu à rencontrer et que j'apprends peu à peu à connaître. C'est un « tu » face à moi, face à un « je ». Et c'est la fiancée qui parle en premier, c'est elle qui débute et c'est elle aussi qui finira tout à l'heure. Et c'est un point important. Notre vie de chrétien, de chrétienne, est une vie en dialogue. Et il n'y a pas de vie chrétienne qui puisse tenir la route si nous n'aménageons pas dans notre quotidien un temps de dialogue avec Dieu, lui parler et l'écouter, le rencontrer. C'est déjà un point important. Et il nous arrive, même dans la détresse, même dans les moments difficiles de la vie, dans des épreuves, avec tous les points d'interrogation qu'on peut se poser sur les « pourquoi cela m'arrive » ou « pourquoi je traverse une période aussi désertique, aussi aride ?» non seulement dans ma vie de foi, dans ma vie spirituelle, mais aussi peut-être dans ma vie à d'autres niveaux. Eh bien, même si nous nous posons ces questions, c'est vers ce « tu » qu'est le Seigneur que je suis appelé à me tourner. Et s'il m'arrive, et il arrive à la fiancée du cantique aussi cette expérience, s'il m'arrive de ne pas ressentir l'amour du Seigneur de manière tangible, sensible, eh bien, malgré tout, nous ne pouvons jamais oublier que le Seigneur nous invite à entendre de sa part, pour nous, une parole qui nous remet debout, une parole d'amour, que le Seigneur nous adresse en premier. Au commencement, nous dit l'évangile de Jean, il y a la parole. Qu'il me baise, qu'il m'embrasse, enfin, qu'il me baise plutôt. C'est comme ça que souvent c'est traduit et nos traductions sont un peu faillibles à beaucoup d'endroits dans le Cantique des Cantiques. Nos traductions sont difficiles parfois parce qu'elles prennent le parti pris. Elles prennent le parti pris, enfin, je pense à la traduction œcuménique, le parti pris d'une lecture très, très humaine du Cantique des Cantiques, relation homme-femme. Et du coup, ça aplatit tout le texte. Et ça ne fait pas ressortir tout ce que ce texte veut dire. Qu'il me baise, non, ce n'est pas un souhait. En hébreu, c'est un indicatif. Alors, je ne voudrais pas entrer dans de la grammaire ou de la conjugaison, mais c'est quand même important. Le texte hébreu dit qu'il me baise et il me baisera. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une action qui est en cours. Ce n'est pas terminé. Et ce n'est pas dans le passé, et puis ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas seulement un souhait. Aujourd'hui, il me baise et il me baisera. Aujourd'hui, il est dans une relation d'intimité avec moi et il me promet la même chose demain, quels que soient les aléas de ma vie. Il s'agit d'une réalité. Il y a une assurance, un avenir certain qui s'enracine dans la fidélité de Dieu. La foi, nous dit la lettre aux Hébreux, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le verbe « embrasser » en hébreu, il a plusieurs sens. Il y a bien sûr le mot « baiser quelqu'un », mais ça aussi le sens de « allumer un feu ». Alors la Bible n'a pas attendu Johnny Hallyday pour le faire, mais « embrasser », c'est aussi une certaine façon « embraser ». Ou se laisser embraser. Et en hébreu, c'est tout à fait possible. Et c'est d'une certaine manière, cette proximité, cette intimité que Dieu veut vivre avec nous, met le feu à nos émotions, à nos sentiments. Et on lit d'ailleurs dans les prophètes, par exemple chez Jérémie, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» demande Dieu. Hein, Jérémie 23. Et est-ce que l'évangile de Jean ne nous dit pas à nouveau « la parole est une lumière hein, qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain ?» Ce n'est pas tout à fait un hasard. Si c'est par un baiser que le bien-aimé, le Fils de l'homme, sera trahi. Et la bouche, celle qui est le canal d'un baiser, c'est aussi le canal de la parole. Et c'est donc bien d'abord cette parole qui vient m'enflammer, qui vient susciter en moi quelque chose que je n'attendais pas. Et c'est ça la conversion, c'est ça la vie chrétienne qui débute. D'un seul coup, quelque chose vient faire résonance, vient m'embraser de l'intérieur. Alors il est question aussi du vin, ça peut des fois choquer parce qu'il faut le boire avec modération, je le sais bien. Mais dans le Cantique des Cantiques, il est abondant. Il est abondant parce que le vin, c'est d'abord signe de joie. Ce n'est pas parce que l'ivresse est revendiquée, pas du tout. mais c'est aussi parce que non seulement il est signe de joie, mais le vin est symbole de la parole de Dieu, la Torah. Pour les juifs, le vin est aussi souvent symbolisé, enfin symbolise souvent la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu. Et donc, et ce n'est pas pour rien non plus qu'au dernier repas, Jésus distribuera une coupe de vin. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui accentuait sur le sang de Jésus, le vin comme symbole de son sang, c'est-à-dire de sa vie donnée pour nous. Et donc, tes amours sont bonnes plus que le vin, ça va nous dire que quelque part dans la parole et dans tout ce que le Seigneur Jésus nous a laissé, il y a quelque chose d'extraordinairement bon à recevoir. Et puis le mot amour est au pluriel. Alors on peut se dire, c'est une tournure poétique, oui bien sûr, mais c'est aussi le signe d'une intensité. Le fait qu'on mette souvent au pluriel un mot vient souligner le caractère prégnant, le caractère important qu'il peut avoir. Les amours sont bonnes comme le vin. À la fois parce que cet amour est intense, parce qu'il prend des formes différentes, il se manifeste de façon différente au travers de ma vie. L'amour de Dieu, je ne le perçois pas aujourd'hui comme quand je me suis converti. Il y a des nuances, il y a des choses que je comprends autrement, différemment. Il y a donc plusieurs expériences que je fais moi-même de l'amour. Et puis, autant que nous sommes ici rassemblés, nous pouvons témoigner aussi de toute cette différence que nous pouvons accueillir, où Dieu se manifeste par son esprit aux uns, aux autres, parle aux unes et aux autres d'une manière à la fois unique et diverse. Tes amours. L'amour de Dieu est tellement plus vaste que ce que j'en comprends, ce dont j'en fais l'expérience. Qu'il est pour moi à la fois émerveillement et signe de reconnaissance et en même temps signe d'humilité. Mon expérience ne résume pas ce que Dieu est en lui-même. J'en perçois juste un tout petit bout, un petit fragment. Je ne vais pas trop prolonger déjà ces quatre premiers versets, mais il y a plein de choses. L'huile. Le Cantique des Cantiques joue toujours sur des jeux de mots. Le mot « huile » en hébreu, je ne veux pas me faire savant, mais c'est pour vous faire percevoir la richesse. En hébreu, « huile », c'est « shemen ». Et juste à côté, tes huiles, ton nom est une huile. Le nom en hébreu, c'est « shem ». Shem, shemen. À chaque fois qu'il est question d'huile dans le Cantique des Cantiques, on se rapproche du nom. Et le nom, c'est le nom de qui ? C'est ce nom révélé à Moïse au buisson ardent. C'est le nom de Dieu que l'on ne prononce pas, qui ne se laisse pas enfermer, capturer, mais qui est ce nom que l'on révère et qui porte en lui la vie. Je suis qui je serai. Et cette huile, ce nom, l'auteur du Cantique des Cantiques précise, c'est une huile qui s'épanche, qui se, mot à mot, qui se vide. Et je ne peux pas, mais vraiment je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec ce que l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2. Il s'est anéanti lui-même. Il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est vidé. Et si je veux aller vraiment dans la précision, la traduction qu'on a faite de l'Ancien Testament, qui était écrit en hébreu, on l'a traduit à un moment donné, vers le 3e, 2e siècle avant notre ère, on l'a traduit en grec. Parce que beaucoup de juifs qui étaient dispersés dans le bassin méditerranéen ne comprenaient plus du tout l'hébreu. Et pour qu'ils aient encore accès à la Bible, il leur fallait donc une traduction en grec. Et c'est ce qu'on a appelé la traduction des Septante, qui est beaucoup, beaucoup citée par l'évangéliste Matthieu, par exemple. Ces citations de la Bible sont toutes tirées de la traduction grecque des Septante, pas du texte hébreu. Et donc ça a de l'importance. Et quand on a voulu traduire cette huile qui s'épanche, on a été prendre un mot grec, un verbe qui est kéno. Et quand l'apôtre Paul nous parle aux Philippiens de Jésus qui ne s'est pas fait l'égal de Dieu, mais qui s'est vidé lui-même, c'est exactement le même verbe qu'on retrouve, kéno. Donc il y a bien quelque chose qui nous dit, qui est presque prophétique, et qui nous dit qu'un jour, Dieu, par amour pour l'humanité, se donnera totalement sur la croix. Un dernier détail, mais il y en aurait beaucoup plus. Le roi m'a fait venir en son lieu retiré. Dans certaines traductions, même, on a le roi m'a fait venir en son palais. Alors, on se imagine Versailles, la Galerie des Glaces, Buckingham Palace, enfin bref, peu importe. Mais ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Le roi me fait venir en son lieu retiré. Dans toutes les maisons en Israël, il y avait un lieu, ça peut être un meuble, mais ça peut être une pièce, ça dépend un peu des situations, où on conserve tout ce qui est précieux. Les documents, les bijoux, la monnaie. Bref, parce qu'on veut les préserver des inondations, des rongeurs, des voleurs. Et on est donc dans ce lieu-là. C'est le lieu le plus précieux. C'est le lieu du trésor. C'est le lieu du plus intime. Et là encore, je fais un rapprochement. Ce même mot hébreu, lieu retiré, en grec, je le retrouve plusieurs fois, et y compris dans l'évangile de Matthieu, où on nous dit en Matthieu 6:6, quand tu veux prier ton Père, va dans le lieu le plus retiré. C'est le même mot en grec qui est traduit dans le Cantique des Cantiques et qui est redit par Matthieu. Le Seigneur, ça veut tout simplement dire que le Seigneur nous invite à le rejoindre dans ce qu'il y a de plus intime, ce face à face auquel nous sommes conviés et qui toujours nous maintiendra debout et nous fera capables, comme le dit très bien la fin de ce petit passage, rappeler ses amours par le vin, faire mémoire, nourrir notre mémoire et nourrir notre mémoire par le rappel de la parole qui elle-même vient simplement, c'est comme un livre ouvert sur l'amour que le Seigneur a pour nous. Mais, tout n'est pas toujours si simple. Au chapitre 5, alors il y a eu toutes sortes de choses entre le chapitre 1er et le chapitre 5, je ne vais pas tout détailler. Il y a eu plutôt des bons moments entre le fiancé et la fiancée, puis patatras. Moi, je me suis endormi et mon cœur veille, chapitre 5, verset 2. La voix de mon bien-aimé frappe. Ouvre à moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttelettes de la nuit. J'ai dépouillé ma tunique, dit la fiancée, comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a envoyé sa main hors du trou, mes entrailles ont gémi sur lui. Je me suis levé, moi, pour ouvrir à mon bien-aimé, et de ma main a coulé la myrrhe, de mes doigts la myrrhe est passée sur la poignée de la fermeture. J'ai ouvert, moi, à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Il est passé. À sa parole, mon âme est comme sortie d'elle-même. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Ils m'ont trouvé, les gardes qui tournent dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils ont soulevé ma cape au-dessus de moi, les gardes des murailles. Je vous en supplie, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui raconterez-vous? Que moi, je suis malade de l'amour. L'amour est mis à l'épreuve. Il n'y a peut-être que les jeunes fiancés qui s'imaginent que cette espèce d'intensité amoureuse qu'on peut avoir au début de la vie et qui est très belle parce que c'est celle qui nous met en route va durer de la même façon toute la vie. Eh bien non, je suis désolé. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments de grande fulgurance, puis des moments de grande patience. Des moments où tout est clair et des moments où tout s'embrouille. Eh bien, cette fiancée est tout à fait dans cette situation. Je dors, mais mon cœur veille. Ça, c'est déjà pas mal. Elle dort, bon, elle s'est assoupie, mais quand même quelque chose en elle vient garder une forme de vigilance, c'est éveiller, c'est quand même rester sur le qui-vive, c'est pour que la voix reste à portée d'oreille. Elle veille, mais quand même pas si bien que ça, parce que le bien-aimé se présente à la porte et que elle n'ouvrira pas. Un petit détail, le bien-aimé frappe, mais c'est pas lui qui frappe, c'est sa voix. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous voyez bien que ce passage de l'Apocalypse au chapitre 3 fait complètement écho à ce passage. Une voix qui frappe. Le Seigneur nous sollicite par sa voix. Et c'est intéressant parce qu'il n'entre pas en intrus. Ce n'est pas un voleur qui va essayer de casser la serrure ou avoir un pied de biche ou d'enfoncer la porte à coup d'épaule. Non. Le Seigneur appelle à moi de faire cette part d'ouverture. Le Seigneur n'enfonce pas, il n'est pas intrusif, il n'intervient pas dans ma vie sans respecter qui je suis. Et voyez, ce qui me frappe, c'est que c'est cette cascade de mots doux que le bien-aimé dit à sa fiancée. Hein, je les reprends parce qu'ils sont, très, très... Enfin, pour moi, ils m'émeuvent beaucoup. Le bien-aimé ne voit sa fiancée que comme une colombe, une parfaite, une sœur, une compagne. C'est ça l'intention du Seigneur pour nous. Et ce n'est pas forcément l'image que nous avons de nous-mêmes. Quand nous avons nous-mêmes à nous examiner face à lui, on se dit, oh là là, on n'est pas à la hauteur, on ne sera jamais. Lui, peu importe qu'on ne soit pas à la hauteur, ça c'est la vérité, et c'est très bien qu'on en soit conscient. Mais lui, il nous voit d'un autre regard. Et la manière dont lui nous voit vient réassurer en nous la certitude que malgré mon péché, malgré ma faute, je suis dans sa main. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas aller trop loin dans ce passage, mais on voit bien qu'à un moment donné, elle a plein d'objections pour pouvoir ouvrir. J'ai enlevé ma tunique, comment la remettrai-je? Je me suis lavé les pieds, comment les salirai-je? On a l'impression quand même qu'elle exagère un peu. Elle a quand même son fiancé là à portée de main, tout celui que son cœur aime, et puis pof, elle le laisse s'en aller parce qu'elle n'a pas remis son vêtement. On pourrait avoir là aussi on pourrait beaucoup prolonger hein, tout ce qui est derrière. C'est ne pas avoir pris son vêtement, c'est peut-être aussi ne pas se laisser revêtir. Hein. Et ça fait allusion à l'amour que le Christ nous porte, se laisser revêtir de cet amour, mais se laisser aussi revêtir symboliquement par le manteau du baptême, par la robe de baptême, oublier son baptême, oublier tout l'engagement qui est derrière. Et ne pas se lever, bah, c'est faire preuve un peu de paresse, hein, c'est se dire, je me la coule douce, puis voilà, je suis chrétien depuis 20 ans, 50 ans, et puis Dieu n'a rien à m'apporter maintenant, je sais tout, j'ai fait le tour de la question, c'est bon, maintenant, passe ton chemin. Il y a ce genre de difficulté dans la vie chrétienne. Quand on a rencontré le Seigneur et qu'on vit avec lui depuis longtemps, on a l'impression que peut-être j'ai fait le tour, j'ai plus rien à apprendre. Et c'est un grand risque. Parce qu'en fait, le Seigneur vient souvent nous repêcher, nous ressaisir, nous reprendre à un moment donné ou à un autre de la vie en nous montrant des choses que je n'avais pas imaginées. Et alors, on est à nouveau dans l'émerveillement et dans la découverte, parfois un peu dans la déstabilisation, mais c'est pas mal d'être déstabilisé. Alors, elle va se lever, la fiancée, quand même, au bout d'un moment, et se lever dans la Bible, c'est aussi un verbe de résurrection. Il n'y a pas de mot pour dire ressusciter dans le langage biblique. Il n'y a pas de mot, ça n'existe pas, ça a été inventé après. On prend que des verbes courants, se réveiller ou se lever. Et c'est pour ça qu'on dira que Jésus s'est levé d'entre les morts. Et elle se lève. De la même manière, nous sommes appelés nous aussi à nous lever, à ne pas rester sur nos échecs, sur nos refus d'ouvrir la porte. Ce fiancé qui a traversé la nuit pour la rejoindre, il a traversé la nuit, il a traversé l'humidité. Et on nous dit, c'est un tout petit détail, mais je vous laisse parce que pour moi, il m'a beaucoup parlé. C'est ma tête ruisselle de rosée. Alors la rosée dans la Bible, là aussi, on en ferait tout un... Je pourrais m'arrêter longtemps pour vous parler de la manne et pour vous parler de tout ça. Parce que tout ça, c'est derrière ces mots. Mais juste un petit détail, mes boucles sont remplies de rosée. En hébreu, le mot boucle peut vouloir dire aussi épine. Et moi, je me suis dit, une tête d'épine, il n'y en a qu'un qui l'a portée. Ce bien-aimé qui vient jusqu'à sa fiancée, qui vient l'aider à se relever, il n'y a que Jésus pour faire ça. Lui couronné d'épines. Vous me direz peut-être que vraiment je tire un peu les choses par les cheveux, mais je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil que ce texte nous livre. Et puis il y a cette terrible rencontre avec les gardes de la ville, les gardes des murailles de Jérusalem, la ville sainte. Là encore, je ne pourrais pas aller trop loin ce matin, mais je ne peux pas ne pas penser à celles et ceux qui se sont fait gardiens du temple, gardiens de la religion, et qui, au lieu de bien garder, molestent, frappent, blessent. Vous avez rencontré, et peut-être vous en faites partie, j'en ai rencontré aussi souvent, des hommes, des femmes blessés par l'Église. Des hommes et des femmes qui n'ont pas trouvé dans leur détresse le soutien qu'elles pouvaient en attendre. Et je ne vais pas multiplier les exemples, il y en a beaucoup. Mais juste cet avertissement que ce n'est pas l'Église que nous devons aimer ou adorer, mais qu'il ne faut pas se tromper de lieu d'enracinement. Notre lieu d'enracinement, il est dans l'amour que le Seigneur nous porte. Et là seulement. Et l'Église peut des fois nous décevoir. L'Église peut ne pas être à la hauteur, ne pas répondre à notre recherche. Peu importe. Parce que il nous faut accepter et accueillir cette humanité de l'Église. Mais il nous faut aussi garder en nous très profond ce désir de Dieu, cette quête de Dieu, cet enracinement en Dieu. Car je suis malade de l'amour. C'est-à-dire, je ne sais pas vraiment aimer à la hauteur que le Seigneur m'aime. Je suis malade de l'amour. Je conclus. Au chapitre 8, je termine par deux versets. Qui est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Oui, fort comme la mort, est l'amour. Inflexible comme le séjour des morts est le zèle. Ses brûlures sont des brûlures d'un feu qui est une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Un homme donnerait toute sa richesse contre l'amour de mépris, on le méprisera. C'est presque la conclusion, mais il n'y en a pas, du cantique, avec une parole extraordinaire qu'on ne rencontre pas beaucoup dans l'Ancien Testament. Un amour fort comme la mort. Nous, chrétiens, nous avons une étape de plus. Nous savons que l'amour est plus fort que la mort. Mais l'auteur du Cantique des Cantiques, lui, il entrevoyait déjà certaines choses, mais il n'avait pas cette vision. Mais déjà, il avait la vision quand même que la mort n'est pas une fin, que tout ne s'arrête pas là, que ce n'est pas le point final de la vie, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui se dresse en rempart contre les forces de mort qui s'acharnent dans le monde et dans nos vies. Et cette force qui s'acharne contre la force de mort, c'est celle de l'amour. Et celle de l'amour de Dieu, pas un autre amour. Et quand on dit, ouais, il n'y a pas le nom de Dieu, eh bien, il apparaît là, tout à fait à la fin. On avait vu au premier chapitre, ton nom est comme une huile qui s'épanche. Eh bien là, ce nom arrive, flamme de l'éternel, ou flamme de Yah, Y-A-H, c'est-à-dire la contraction du nom imprononçable, justement, de Yahvé. C'est une flamme de Yah, l'amour, fort comme la mort. Et les grandes eaux, le déluge, les eaux qui peuvent me submerger parfois, dans lesquelles je sens que je vais me noyer, rien ne peut éteindre cet amour-là. Cet amour-là, il revient sans cesse réallumer ce qui en moi s'est éteint, ni des flammes le submerger. Il y a là quelque chose de très fort que nous pourrons emporter avec nous, parce que je crois que si les eaux menaçantes ont l'intention d'éteindre en moi ce feu, alors à moi de veiller, effectivement, pour ne pas me laisser submerger. Mais souvenons-nous qu'au milieu des eaux menaçantes, Jésus lui-même, notre bien-aimé, dans une barque tellement frêle, devant des disciples tellement effrayés, il a été à même d'apaiser la tempête. L'amour que Dieu nous offre et le zèle, puisqu'il est question de zèle dans ce texte, que nous pouvons montrer pour lui, sont autant de médicaments, d'antidotes à tous les déluges, à toutes les eaux qui se déversent et qui cherchent à éteindre la flamme de Dieu dans ma vie et dans la vie de l'Église, parce que l'Église est cette présence de Dieu au milieu des hommes et des femmes de ce temps. On avait trouvé tout à l'heure que le verbe « embrasser » pouvait tout aussi bien se traduire par « allumer le feu ». Eh bien, c'est une vraie joie de pouvoir accueillir cette assurance que rien ne peut éteindre le feu de l'amour que Jésus est venu allumer sur cette terre. Que ce feu que Jésus est venu allumer brûle nos cœurs. Nos cœurs, nos vies sont des fois des petits bougeoirs qui ne sont pas toujours bien à même de contenir et de soutenir cette flamme. Nous sommes souvent dans nos fragilités bien vacillants, mais il y a quand même une lumière qui se pose là-dessus, celle de l'amour ardent du Seigneur pour nous, alors que l'on soit en couple ou non, que ce soit bientôt la Saint-Valentin ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dieu ne cesse d'allumer et de rendre vive en nous la flamme de son amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole, elle est comme ce vin qui réjouit, elle est comme le miel que nous pouvons goûter, elle est comme une épée qui vient séparer en nous ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, et qui vient couper parfois ce qui est en trop et ce qui n'a pas d'importance. Nous te remercions pour ta parole, vin, miel, épée, et lumière sur notre chemin. Amen.